Chapitre 3. Nanès. Bourg-Fidèle, Ardennes. Nanès resta debout sous la pluie, à regarder s'éloigner la voiture de gendarmerie jusqu'au bout de la longue ligne droite qui menait vers le centre de Bourg-Fidèle. Elle avait menti. Oh, pas sur grand-chose, juste sur un point précis. Elle n'avait aucun enfant à aller chercher à l'école. Ethan et Amine, qu'elle gardait cette semaine, étaient deux collégiens de 11 et 13 ans qui ne rentreraient pas avant la fin d'après-midi. Elle avait 5 heures devant elle. Enfin non, juste une. Les gendarmes allaient revenir, l'interroger, tout fouiller. 1 heure à tuer. Elle avait préparé des lasagnes au saumon, pour 2. Renaud devait rentrer ce midi pour fêter son anniversaire, 47 ans aujourd'hui. Il était en déplacement toute la semaine précédente dans l'Ouest, quelque part entre la Bretagne, le Val-de-Loire et la Vendée, et était reparti au Luxembourg hier matin. Elle aimait tant leur retrouvaille, quand Renaud poussait la porte, posait sa valise dans l'entrée, à peine le temps de retirer sa veste, elle le pressait vers leurs 2 assiettes, il lui passait toujours un coup de fil 30 minutes avant d'arriver, pour que tout soit chaud, prêt, parfait. Renaud ne rentrerait plus jamais. Était-il seulement dans l'Ouest toute cette semaine? Au Luxembourg hier? Qui étaient ces 2 sosies, cet Hans Bernard et ce Pierre Rousseau dont elle n'avait jamais entendu parler? Elle vivait avec Renaud depuis 28 ans, depuis toujours pour ainsi dire. Comment aurait-il pu lui dissimuler une autre identité? Nanès sortit sans même se chausser. Elle alla s'asseoir, sans se soucier de la pluie, sur le tourniquet du jardin. Elle poussa sur ses pieds quelques secondes, puis laissa la force centrifuge l'entraîner. La maison tournait autour d'elle, les briques tournaient, le jardin tournait, le ciel tournait de plus en plus vite, les gouttes s'alourdissaient, se fracassaient sur son visage avec de plus en plus de force, et elle aurait voulu que tout s'accélère encore pour que la collision soit plus violente, à la vitesse d'une toupie affolée. Que chaque larme de pluie soit comme une balle tirée, sur elle, fusillée. Renaud ne rentrera plus jamais. Renaud était-il un autre que celui qu'elle croyait? Elle continua de se laisser enivrer par le vertige du manège. Ses pensées tournoyaient à la vitesse des ailes d'un moulin. Renaud avait toujours été là, présent dans son quotidien, mais que savait-elle de lui? De lui avant? Tout? Rien? Tout avait commencé par une rencontre, en 1995, devant une représentation parodique de Punch et Judy sur la place Ducal de Charleville-Mézières, lors du Festival mondial des théâtres de marionnettes. Renaud y assistait avec sa mère. Il riait comme un enfant. C'est ce qui l'avait tout de suite séduite, ce rire de gamin et sa grande carcasse de pantin. Elle avait 19 ans et lui 18. Elle savait déjà ce qu'elle voulait faire de sa vie, s'occuper des gamins. Alors un de plus ou de moins. Surtout un gamin avec de tels yeux gris, un grand gamin d'1,80 m, juste la taille de son lit. Elle l'avait invité le soir même dans son appartement, rue Bourbon. Il n'en était jamais sorti. Et après? Un mariage, 2 enfants, les leurs, puis des dizaines, 79 exactement, les siens. 28 ans de bonheur, 3 semaines sur 4. Et avant? Avant leur rencontre place Ducal? Rien qui permette de soupçonner quoi que ce soit d'étrange. Renaud vivait encore avec sa mère, rue de Wailly. Il terminait son DUT de génie mécanique à Charleville. Avant cela, il avait passé son bac au lycée Monge, elle au lycée Chanzy. Avait fréquenté le collège Bayard, elle le collège Rimbaud. Lui l'école de la Citadelle, elle l'école Kennedy. Ils s'étaient sans doute souvent croisés dans cette ville de 50 000 habitants, sans se reconnaître, pas encore. Ils s'étaient beaucoup aimés, dans chaque pièce de leur F3 de la rue Bourbon. Ni elle ni lui n'avaient éprouvé le besoin de revoir leurs anciens amis, puis d'autres relations s'étaient incrustées dans leur vie, des collègues des ateliers de l'Avance, où Renaud avait été embauché, des éduques et des assistantes sociales de l'ASE, des parents d'élèves, des cousins à elle. Renaud n'avait que sa mère, pas d'autre famille, pas d'anciens copains. Oui, quand elle y repensait, personne, depuis que le cancer de l'utérus avait emporté sa belle-mère, ne pouvait témoigner de ce que Renaud avait vécu ou fait dans sa vie d'avant 1995. Mais n'était-ce pas pour tout le monde pareil? Quand on fonde un couple, ne construit-on pas une nouvelle famille en effaçant toutes celles d'avant? Le tourniquet ralentissait, les cheveux, le pull, la peau de Nanès étaient trempés. Elle n'avait enfilé aucune veste. L'eau glacée coulait de ses seins à son ventre. Il fallait qu'elle rentre. Il fallait qu'elle cherche dans les rares affaires de Renaud. Il fallait qu'elle se souvienne. Il y avait forcément un indice, un témoin, quelque chose qui la reliait au passé de son mari. Renaud avait grandi à Charleville-Mézières, à 30 kilomètres d'ici. Quelqu'un se souvenait forcément de lui. Le reste de la journée fila comme un éclair. La visite des gendarmes ressembla à une perquisition et ils embarquèrent tous les ordinateurs, dossiers professionnels et objets personnels de Renaud. La terrible séance d'identification à la morgue ne laissa aucun espoir à Nanès. C'était bien le corps de Renaud qui était étendu dans un tiroir glacé. Les heures d'interrogatoire à la gendarmerie furent presque plus douloureuses. « On n'écarte aucune piste, Madame Duval. Accident, suicide ou même crime. » Seuls les coups de téléphone réguliers de la capitaine Catel Marel la rassuraient. « On cherche, Agnès. On cherche si les deux autres types, Pierre Rousseau et Hans Bernard, existent. Pour l'instant, nous n'avons aucune piste. On essaye aussi de reconstituer l'emploi du temps de votre mari. Mais une chose est certaine, il n'était pas au Luxembourg hier. Renaud vous a menti. Son patron ne l'y a jamais envoyé. » Renaud vous a menti. C'était une certitude désormais. Sur quoi? Sur tout? Jusqu'où? Le soir, seule devant sa purée de butternut, Nanès alluma la télévision. Des clips, RFM parti, juste pour le bruit. Ses protégés, Ethan et Amine, étaient partis. Elle avait demandé à l'assistante sociale de l'ASE de les récupérer. Les gérer, en plus du reste, était trop compliqué. Elle préférait la solitude. Elle y était habituée. Une semaine sur quatre, même si ce silence n'avait rien à voir avec celui d'avant, celui des soirs de veille où elle attendait que Renaud l'appelle. Tout en avalant sans appétit, Nanès observait les marionnettes autour d'elle. L'homme au sabre et la ballerine, Pierrot et Colombine, mais aussi, par la porte ouverte de sa chambre, une femme aux cheveux rouges et son chien de laine veillant à côté d'elle. Ses compagnes si rassurantes pendant toutes ces années ne lui apparaissaient désormais que comme des espionnes grimaçantes. Toutes mentaient. À qui faire confiance? À la télé? Sur RFM, Bruel donnait rendez-vous dans 10 ans aux amis de sa vie d'avant. Nanès augmenta le son pour essayer de remplir le vide et ne plus penser à rien. Quelque chose l'intriguait pourtant. Quelque chose en rapport avec cette télévision. Pas ce programme, pas ce clip, un autre souvenir qu'elle n'arrivait pas à définir. Elle se torturait le cerveau, cherchant vainement un moyen de remonter dans le passé de Renaud. Mais même si elle y arrivait, si elle retrouvait un témoin ayant connu Renaud avant elle, un de ses anciens instituteurs, ancien prof ou entraîneur de sport, qu'aurait-il pu lui apprendre sur cette télé? Une image venait de traverser les pensées de Nanès. Floue encore, mais la focale de son cerveau se réglait. Il l'avait achetée il y a plus de 10 ans, à Noël 2011 exactement, au Darty du centre commercial de la Croisette. Pourquoi ce détail revenait-il la titiller? La foule des jours de solde dans les galeries marchandes, c'était tout ce qu'elle et Renaud détestaient. De plus, quand Nanès accueillait ses petits protégés, la télé n'était jamais allumée. Pourquoi ce foutu écran plat, 120 cm, son Dolby et résolution HD, venait-il la hanter? Elle dut fouiller quelques longues secondes supplémentaires dans sa mémoire avant de parvenir à exhumer le souvenir qu'elle cherchait. Elle se mit à rire toute seule et eut presque la certitude que les marionnettes pendues au bout de leur fil, surprises, s'étaient tournées vers elle. Le type qui leur avait vendu cette petite merveille de technologie, du moins c'est ce qu'il avait juré en leur conseillant ce modèle, connaissait Renaud. Ça n'avait duré que 5 minutes, des millions d'autres souvenirs s'étaient empilés depuis, mais Nanès avait archivé cette scène dans un coin de sa tête. Sans doute parce que ce marchand de télé était la seule personne, parmi toutes celles qu'elle avait croisées pendant 28 ans, à avoir connu Renaud avant elle. Elle eut l'impression de cliquer dans un dossier de son cerveau. Tout réapparut avec netteté. Le vendeur avait effectué son service militaire avec Renaud à la caserne de Colmar, dans le 152e régiment d'infanterie, juste après son bac. Le vendeur et lui étaient assez copains au régiment apparemment. Deux bidas, originaires du même lycée, dans la même ville, Charleville, ça rapproche. Le gars de Darty avait insisté. « Tu deviens quoi? C'est drôle ce hasard, on pourrait se revoir. » Mais Renaud n'avait pas renvoyé la balle, juste quelques politesses, un numéro de téléphone échangé qu'il avait balancé sitôt rentré. Nonès n'avait rien soupçonné. À vrai dire, elle aurait peut-être fait la même chose si une ancienne copine qu'elle n'avait pas forcément envie de revoir l'avait alpaguée dans la rue. Enfermé dans l'écran plat, Patrick Bruel confirmait. Si on n'avait plus rien à se dire, et si... Il fallait reconnaître que le bidas de chez Darty ne leur avait pas vendu de la camelote. Son Dolby et image HD. La voix de Patrick était parfaitement cassée et ses yeux marron profonds. Comment retrouver ce vendeur 12 ans après? Elle ne connaissait même pas son nom et était incapable de se rappeler à quoi il ressemblait. Elle attendit par respect que Patrick répète 4 fois « Attendez-moi » pour éteindre la télé. Elle termina sans appétit son repas et monta se coucher, se recroquevillant sous les draps pour ne pas croiser le regard sur la table de chevet de Manika, la marionnette aux cheveux rouges, et de son chien, Zéric. Elle resta plus de 2 heures à veiller, sans dormir, yeux fermés avant de se relever. Dans le brouillard de son cerveau, à force de laisser ses pensées tâtonner, une idée concrète venait de se matérialiser. Elle redescendit dans le salon, se mit à genoux devant le placard et en tira de vieux cartons. Toutes les factures depuis 20 ans y étaient archivées dans des pochettes cartonnées. Elle ouvrit la chemise électroménager et hi-fi, tourna plusieurs pages et ne mit que quelques secondes à trouver ce qu'elle cherchait. Le bon de garantie d'un téléviseur. Philips 47 PFL 9603, 990 euros, Darty, site La Croisette. Vendeur, Bruno. Nanès n'eut pas le courage de remonter se coucher. Elle attrapa un plaid et s'allongea sur le canapé. Elle appellerait Darty demain, dès l'ouverture. Même si ce Bruno ne travaillait plus là-bas, un collègue se souviendrait forcément de lui. Maintenant qu'elle avait saisi un fil, elle n'allait plus le lâcher. Le seul fil qui la reliait au passé de Renaud. Renaud. Était-ce d'ailleurs son vrai prénom? Duval. Ce nom qu'elle portait, était-il celui de son mari? Ou s'était-elle mariée avec un autre? Un de ses 2 sosies aux 6 beaux yeux gris. Hans Bernard. Ou Pierre Rousseau.